richesse, la commune, aimée, c'est la porte.
Ensemble sur Calade.
Le prof Patrick.
Allez, tout de suite, on retrouve le prof Patrick, bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
On a fini notre série sur la politique industrielle.
Oui, parce que bon, t'es quand même un peu chiant.
Et donc, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ?
Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler du monde des entreprises.
Ouais.
Mais une fois n'est pas coutume, je ne vais pas te faire de développement sophistiqué à la prof Patrick. Non, je vais juste vous raconter deux histoires, okay. Deux anecdotes, et je vais en tirer une morale de l'histoire.
Ok, les fables du prof Patrick.
Voilà, là, j'ai trouvé un chouette titre, les entreprises et l'éthique, deux histoires, une morale. Je suis content de mon titre.
C'est beau.
On commence avec la première, ce qui paraît logique. En 2021, une jeune femme appelée Samira Rilassi décide de changer de carrière. Elle a des problèmes de santé et son activité qu'elle fait à ce moment-là, c'est qu'elle est ATSEM. ATSEM, c'est les dames qui aident les instits en école primaire et elle est AESH, les dames qui aident les profs en collège. Ils aident des élèves en difficulté. Elle a des problèmes de santé qui fait qu'elle, ça devient très difficile, voire impossible de continuer ses activités. Donc, elle se dit, je vais réaliser le projet dont je rêve depuis longtemps. Je vais créer ma marque de cosmétiques.
Ok.
Donc, 2021, elle prend un statut d'auto-entrepreneur. Elle dépose sa marque qu'elle a trouvé l'Instinct Paris. Okay. Donc, elle les dépose à l'INPI, Institut National de la Propriété Industrielle. C'est l'organisme public qui va vérifier que ce n'est pas déjà pris et qui va donc le protéger, moyennant une certaine somme. Elle choisit elle-même les textures, les odeurs auprès d'un laboratoire. Elle commande tout ça et elle crée sa marque et elle démarre. Et attention, là, je vais passer au second degré, hein, humour noir, d'accord. Et c'est à ce moment que le premier groupe mondial du luxe français, le groupe LVMH, perçoit la menace de Samira Rilassi, la menace pour sa survie, tu comprends ?
Ouais.
Eh oui, bien sûr. Alors, je vous explique, hein, parce que vous n'avez pas compris. LVMH compte 75 marques. Parmi ces 75 marques, il y a une marque qui s'appelle Givenchy L'Instinct. Mmh. L'Instinct, okay. Présent dans les deux dénominations. Donc, c'est insupportable pour LVMH. Fin 2021, ils entament une procédure auprès de l'INP, l'organisme officiel, hein, pour s'opposer à l'enregistrement de la marque de Madame Rilassi. L'INP, il envoie bouler, hein. Parce qu'en fait, le point commun, c'est l'instinct. L'instinct, c'est un terme générique, on ne peut pas le considérer comme sa propriété. C'est pas possible.
Bah oui, sinon, on ne peut plus.
Bah non, sinon, on ne peut pas faire grand-chose.
Ouais.
Donc, sa demande n'est pas recevable. Il n'y a pas plagiat. Tu ne seras pas un peu de mauvaise foi, à mon avis, LVMH, là, quelque part. Mais ce qui est bien quand on est une multinationale, Mathieu, c'est qu'on a plein de fric.
Bah ouais, on peut faire plein de choses.
Et donc, quand on a plein de fric, qu'est-ce qu'on fait ?
On rachète.
Non, non, même pas, ça serait trop sympa. Non, non, on va étrangler son adversaire en l'attaquant encore et encore en justice. Et c'est ce que fait donc LVMH. Il lance une nouvelle procédure le 7 juin 2022 en nullité. Évidemment, en face, la petite chérie, elle n'a pas beaucoup d'argent, elle a tout mis dans son truc, elle n'a pas les moyens de se payer un avocat. C'est le pot de terre contre le pot de fer, ou plutôt contre le géant de fer. Hein, d'accord ? Et donc, le pot de terre se brise. Elle a mis tout son argent dans son activité, elle ne peut pas se payer un avocat, elle a écrit 4 fois au domicile personnel de Bernard Arnault. Vous savez, Bernard Arnault, première fortune mondiale, qui vient d'être détrôné, deuxième fortune mondiale, patron d'LVMH. C'est un grand humaniste, c'est un mécène, c'est un ami des arts. Va mourir, hein. Il n'a jamais répondu.
Ouais.
Elle propose alors, tiens, tu viens de le dire, à LVMH de lui racheter sa marque. Ça se fait facilement, hein. Ils ont l'argent, il n'y a pas de problème. Alors, ils vont répondre en mode, tiens, la tête sous l'eau, si on l'enfonçait encore un peu plus. Et donc, ils vont lui faire une proposition qu'elle décrira comme humiliante.
Ouais, un euro symbolique.
Voilà. À ce moment de l'histoire, on est en 2022, Samira n'a plus d'argent, elle est au RSA, et pour info, elle a un statut handicapé.
Ouais.
Bon, on est soulagé, hein, on a cru que LVMH allait vraiment être menacée dans son existence.
Ils ont eu chaud.
Ouais. On est rassuré là, quand même. Petit problème, le 28 avril, le journal local L'Indépendant révèle cette affaire. Un peu gênant, mais bon, c'est un journal local, on s'en fout un peu. Plus gênant encore, le 5 mai, LVMH reçoit des coups de fil ou des mails, je ne sais pas trop, de la part de Mediapart. Mm. Vous savez, Mediapart, de fouille merde, là, celui qui énerve tout le monde. Ça, ce n'est pas bon pour l'image de marque Coco, parce que Mediapart, ce n'est pas l'indépendant en termes d'impact. Résultat, ça ne traîne pas. Donc le 5, il reçoit un contact de Mediapart. Le 6, le lendemain, une représentante d'LVMH appelle en personne Samira Rilassi. Excusez-moi. Ils m'ont proposé un accord à l'amiable permettant d'éponger les dettes que j'ai reçues, les pertes que j'ai eues. Elle était très sympa au téléphone, beaucoup d'empathie. J'ai presque cru que tout allait se terminer sur une note positive. Je viens de citer Samira. Mmh. En gros, la dame de LVMH lui explique bien sûr qu'ils arrêtent les poursuites, mais aussi qu'ils vont l'aider financièrement à relancer son activité. Sauf que Mediapart publie quand même son article le 15 mai.
Ouais.
Eh ben ouais. Là, côté LVMH, les dégâts sont faits. Hein. Pourquoi s'emmerder à aider Samira ? Alors, ils arrêtent là la procédure, c'est tout. Elle n'entendra plus parler de LVMH.
Ok.
Fin de ma première histoire.
Bon.
Deuxième histoire ?
Ouais, c'est des histoires d'horreur pour jeunes entrepreneurs, ça.
Ah, on va passer à une autre multinationale, vous allez voir. On va passer à Total Energy. Mais d'abord, est-ce que vous connaissez Yamina Saeb ?
Non.
Ben moi non plus, je ne la connaissais pas. Et moi, c'est un peu honte. Parce que c'est une économiste réputée mondialement pour son expertise sur la question du réchauffement climatique. La preuve, elle est l'autrice principale du troisième volet du dernier rapport du GIEC. Donc c'est une pointure, hein. Attention. Et c'est à ce titre de grosse pointure qu'elle est invitée le 23 mai dernier, il n'y a pas longtemps, à une table ronde organisée par HEC, la grande école française, sur la question suivante. Comment opérer la transition d'une économie fondée sur les énergies fossiles à une économie fondée sur les énergies renouvelables ? Ça, c'est une bonne question, il l'invite, c'est bien. En face d'elle, notez bien, divers interlocuteurs, dont la vice-présidente de Total, chargée de la soutenabilité et du climat, Madame Carole Le Gall. Donc attention, hein, vice-présidente de Total, une grosse pointure. Madame Le Gall est donc chargée de vendre, entre guillemets, aux médias, la stratégie de transition énergétique de Total Energy. Bien. Je ne vous cacherai pas que cette stratégie est très, très critiquée. Alors habituellement, les scientifiques, c'est des gens très prudents, hein, d'accord ? Ils mesurent leurs paroles, ils pèsent le pour et le contre, ils parlent de façon complexe, souvent on n'y comprend rien, d'accord ? Bah, cette fois, pas du tout, dis donc. alors, ils parlent en anglais. Hein, je mettrai les liens, dans les liens toute la possibilité d'écouter Madame Saeb, mais comme ils parlent en anglais, je vous présente la traduction de ce que Yamina Saeb va balancer à la figure de la vice-présidente de Total. Avec mes remerciements à Clément Janot et son blog Nourriture TS, qui ont fait le travail. J'ouvre les guillemets, c'est Yamina Saeb, la scientifique, la sommité, qui parle à Carole Le Gall, vice-présidente de Total. L'usage abusif de la science par les entreprises des énergies fossiles n'est pas nouvelle, mais l'utiliser de cette manière est assez choquante pour nous scientifiques. Avant de parler de vos chiffres, Carole, nous avons regardé avec mes collègues ce qui se trouve dans le rapport Total de 2022. Total prévoit d'investir 16 milliards par an entre 2022 et 2025 dans le secteur de l'énergie, dont 70% de ces investissements dans les énergies fossiles.
Ouais.
Investir dans les énergies fossiles signifie investir dans le changement climatique. C'est toujours Yamina qui parle. Donc d'un côté, on a la science qui nous dit qu'on doit réduire les émissions de près de 50% par rapport à aujourd'hui et que c'est la seule façon de garder la planète vivable. De l'autre, on a une des principales entreprises d'énergie fossile au monde, Total, qui dit qu'elle va continuer à développer les fossiles. C'est une contradiction majeure et cela ne devrait pas se produire du tout. Je continue, c'est toujours Yamina qui parle à Carole Le Gall. En réalité, je me suis demandé si c'était une bonne chose de venir ici. Mais je suis venu parce que nous devons arrêter de nous mentir. Le titre de cette table ronde porte sur la transition et la transformation. Mais il ne devrait pas s'agir de transition et de transformation. Il devrait s'agir de mettre fin à l'énergie des fossiles, à l'ère des fossiles, dès maintenant. Nous pouvons le faire parce que nous devons le faire. C'est ce que vous devez faire, elle parle à Carole Le Gall, vice-présidente de Total. Or, ce n'est pas ce que fait l'industrie des énergies fossiles. Aujourd'hui, nous devrions arrêter de parler de changement climatique. Nous devrions commencer à parler de crime climatique. Et ceci est la continuation du crime climatique. Nous devons mettre fin à l'ère des fossiles, sinon il n'y aura plus de vie sur cette planète. Pouvez-vous juste reconnaître, Carole Le Gall, elle est en face d'elle, elle lui parle directement, que vous contribuez à mettre fin à la vie sur cette planète ? C'est ce que vous faites. Ce n'est tout simplement plus possible. Ce n'est plus possible. Fin de citation.
Aïe, aïe.
Donc vous avez entendu, une des plus illustres représentantes de la science appelle un chat un chat. Total ouais. Energy est un criminel climatique qui contribue à mettre fin à la vie sur notre planète. Morale des deux histoires. Il est vain d'attendre des entreprises un comportement moral ou éthique.
Ouais.
Les entreprises à partir d'une certaine taille sont des organisations totalement impersonnelles, dont l'existence n'a qu'une seule finalité, réaliser encore et toujours plus de profits. Alors, les enseignants vont me dire « Ouais, mais attends, il y a les finalités sociales, sociétales. » Oui, elles sont secondaires. D'accord ? La finalité prioritaire, c'est réaliser du profit. Les entreprises ne sont pas immorales, elles sont amorales, à côté de la morale. La morale n'est pas un champ pertinent pour elles. Le champ des débats sur l'éthique leur est fondamentalement étranger. Il faut le savoir et comprendre que deux choses les forcent à infléchir leur marche folle. Un, la pression de la société civile, c'est ce qui est arrivé dans la première histoire, avec LVMH. Ouais. Deux, les pressions de la loi, c'est ce qui n'est pas suffisant. La loi n'est pas suffisamment structurée, parce qu'encore faut-il que le pouvoir politique soit à la hauteur de l'enjeu. Donc la deuxième histoire, malheureusement, on n'a pas de pression suffisante de la loi.
Ouais.
J'en ai terminé, Mathieu.
Merci beaucoup, prof Patrick, pour ces belles histoires. À très bientôt.
À plus.
Ensemble sur Calade.